Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Hier, nous avons conduit avec des amis en dehors de la ville, pour la journée. Et quand nous avons commencé à rouler, un de mes enfants a demandé « Où allons-nous ?» Un autre a demandé « Est-ce qu'on est bientôt arrivé ?» Je leur ai dit où nous allions. Je leur ai dit que nous n'y étions pas encore, mais que nous étions en route. Quelques minutes plus tard, les mêmes questions sont revenues. Papa, où allons-nous? Et est-ce qu'on est bientôt arrivé? En tant qu'êtres humains, nous voulons toujours savoir où nous allons et combien de temps il nous faudra pour y arriver. Nous voulons aussi savoir comment nous allons y arriver. La semaine dernière, nous avons examiné Jean 13, lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples. Et à la fin de Jean 13, Jésus dit à ses disciples qu'il va les quitter. Cela suscite beaucoup de questions de la part des disciples. Pourquoi, quand, où? Comme nous le verrons aujourd'hui, Jésus ne rejette pas leurs questions. Il prend leurs questions au sérieux et leur donne des réponses.
Et toutes ces années plus tard, nous avons toujours les mêmes questions. Nous pouvons être découragés. Et nous demandons à Dieu, combien de temps encore? Est-ce la bonne voie? Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Et les réponses que Jésus a données à ses disciples sont les mêmes réponses qui sont censées nous encourager, alors que nous faisons face à nos problèmes et combats dans la vie. Alors, quelles sont les réponses de Jésus à nos questions les plus brûlantes? Eh bien, c'est ce que je voudrais que nous examinions ce matin. Donc si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Jean 13. 13, 36. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » La question de Pierre est « Où ? » « Où vas-tu, Jésus ?» quelques versets plus tôt. Jésus avait dit aux disciples que là où il allait, il ne pouvait pas venir. Les disciples ne le comprennent pas encore, mais Jésus parle de la croix. Il va mourir sur la croix pour les péchés du monde, mais sera ressuscité dans la gloire trois jours plus tard. Jésus dit à Pierre que ce n'est pas encore son heure, mais qu'un jour, Pierre connaîtra lui aussi la mort.
37 Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. »
38 Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » La seconde question de Pierre est, « Pourquoi ? Pourquoi ne puis-je pas aller avec toi ? Pourquoi dois-je attendre ? Seigneur, je ferai tout pour toi. Je mourrai même pour toi. Comme je l'ai dit dimanche dernier, il faut aimer le cœur de Pierre, pour le meilleur ou pour le pire. Pierre agit avec son cœur. Il aime Jésus. Parfois, cela mène à des actions précipitées. Mais il faut admirer sa passion. Et il dit à Jésus, « Seigneur, je ferai tout pour toi. Je mourrai même pour toi. » Jésus répond à sa question par une question. « Vas-tu vraiment mourir pour moi ?» Et la vérité, c'est que Pierre mourra pour Jésus. Mais cela n'arrivera pas cette semaine. Cela arrivera plus de 30 ans plus tard.
Mais Jésus humilie Pierre en disant, « Ah, tu veux mourir pour moi, tu me renieras trois fois avant que le coq chante. » En d'autres termes, avant que le soleil ne se lève demain, tu auras nié me connaître. Et nous savons par les évangiles que c'est vrai. Pierre renie Jésus deux fois devant la servante. Puis, quand la foule l'interroge de nouveau, il dit, « Je ne connais pas cet homme », en parlant de Jésus. Et alors le coq chanta, et Pierre pleura. Pierre était confiant. Il pensait qu'il réussirait l'épreuve avec la meilleure note. Mais à la fin, il échoua à l'épreuve. Il a renié Jésus trois fois. Un de mes humoristes préférés a dit un jour que la douleur est la connaissance qui se précipite pour combler un vide.
La douleur est la connaissance qui se précipite pour combler un vide. Il dit, imaginez que vous êtes dans une pièce sombre et que vous heurtez votre orteil contre un meuble. À mesure que la douleur envahit votre corps, la connaissance arrive aussi.
Ah, il y avait un meuble ici. Je devrais m'en souvenir à l'avenir pour que cela ne se reproduise pas.
La douleur est la connaissance qui se précipite pour combler un vide. Vous ne saviez pas que le meuble était là dans le noir, mais grâce à la douleur, maintenant vous le savez.
Pierre pensait qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Il était confiant.
Mais les événements de cette nuit-là, lorsqu'il a renié Jésus trois fois, ont montré qu'il y avait une lacune dans sa connaissance.
Entre l'homme qu'il pensait être et celui qu'il était réellement.
Et ce fut une leçon douloureuse pour Pierre.
Mais Pierre a choisi d'en tirer une leçon. Il n'a pas laissé les erreurs de cette nuit-là le définir. Ce n'était pas la fin de son histoire, c'était le début de son histoire. Après que Jésus soit ressuscité des morts, il est venu vers Pierre et il l'a restauré. Il l'a relevé. Il a dit, « Je n'en ai pas fini avec toi. » Et Pierre est devenu l'un des piliers de l'Église primitive. Les échecs doivent enseigner des leçons importantes.
Si tu choisis d'en tirer des enseignements et d'en grandir,
j'avais 19 ans lorsque je suis parti à l'université. Je venais tout juste de devenir croyant, mais je pensais être prêt et suffisamment mûr pour être indépendant. J'ai donc déménagé dans cette université sans y connaître personne. Je vivais avec trois gars qui aimaient faire la fête. Et pendant les deux premiers mois, j'ai tenu bon. Je restais ferme. Il y avait des fêtes dans notre appartement. Mais je n'y participais pas.
Mais ensuite, j'ai eu une journée décevante au milieu d'une semaine décevante. Et quand je suis rentré chez moi, il y avait déjà une fête dans notre appartement, et, dans un moment de faiblesse, j'ai finalement rejoint mes colocataires. Ce jour-là est devenu une semaine, cette semaine est devenue un mois, ce mois est devenu un semestre. Mes notes à l'école étaient mauvaises et j'étais malheureux. Les gars avec qui je vivais étaient sympas, mais nous n'étions pas vraiment amis, et je savais que mes choix et mon mode de vie ne plaisaient pas au Seigneur. Disons que j'avais échoué à l'épreuve. Mais j'ai aussi appris quelque chose de très important de cette expérience. Je n'étais pas encore assez mûr dans ma foi pour être seul. J'avais besoin d'amis autour de moi pour me diriger vers le Christ. Cela m'a amené à être transféré dans l'université près de chez moi. À retrouver mes amis chrétiens qui m'ont soutenu et aidé. Et c'est grâce à cette décision que je suis ici avec vous aujourd'hui. Les échecs peuvent enseigner des leçons importantes. Si tu choisis d'en tirer des enseignements et de grandir.
Peut-être que récemment, tu as remarqué ce fossé dans ta vie entre la personne que tu pensais être et la personne que tu es réellement. Le fossé entre « Seigneur, je mourrai pour toi » et « Je ne connais pas cet homme » comme nous l'avons vu avec Pierre. Tu n'es pas aussi fort que tu le pensais. Tu n'arrives pas à croire que tu as pris certaines des décisions que tu as prises. Tu pensais avoir ce qu'il fallait. Tu te demandes « Comment en suis-je arrivé là ?» Et cela fait mal. C'est douloureux. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu essaie de t'enseigner quelque chose. Vas-tu écouter ? Vas-tu en tirer des leçons pour grandir ? Vas-tu apprendre ? 14.1.
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus voit ce qui se passe. Les disciples sont découragés. Judas vient de les quitter. Jésus a dit à Pierre qu'il le renierait. Et Jésus a dit aux disciples qu'il allait les quitter, alors qu'ils s'avancent vers la croix.
Les disciples sont tristes. Leurs cœurs sont troublés. Jésus était leur ami, leur mentor, leur enseignant, celui qui accomplissait des miracles. Ils avaient vu Jésus faire des choses incroyables, mais ils avaient aussi passé du temps avec lui, partageant des repas et marchant avec lui. Et maintenant, Jésus leur dit qu'il va les quitter, qu'il doit les quitter, afin d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Bien sûr, les disciples étaient découragés. Bien sûr, ils étaient confus. Bien sûr, ils avaient du mal à comprendre cette information. Alors comment Jésus les encourage-t-il? Comment Jésus élève-t-il leur esprit? Comment Jésus les réconforte-t-il? Il leur dit de croire. Il leur dit que tout comme ils croient en Dieu, ils doivent croire en lui. Bien sûr, Jésus est Dieu, mais les disciples étaient encore en train de comprendre et de croire cela de plus en plus à ce moment-là. Jésus dit, « Faites-moi confiance. Je viens de vous annoncer une nouvelle difficile, mais faites-moi confiance. » Et Jésus commence à leur donner, et à nous donner, une image du ciel. Puis, il leur parle du ciel.
Deux, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Trois, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quatre, vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin.
Jésus décrit une maison. Il dit que dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures, et ces demeures sont destinées à ceux qui croient en Jésus-Christ.
Ce n'est pas un hôtel avec des chambres attribuées au hasard, qui pourrait être pour n'importe qui. Non, c'est une maison. Jésus dit qu'il a préparé une demeure pour eux, et lorsque qu'il reviendra, il emmènera ses disciples et tous ceux qui croient en lui dans ces lieux qu'il a préparés, là où Jésus sera aussi.
Bien sûr, Jésus parle ici un peu de façon métaphorique dans Jean 14 au sujet du ciel, mais la vérité demeure. Jésus dit à ses disciples et il nous dit à nous que nous ne sommes pas simplement des invités dans un hôtel où chaque chambre est identique, froide et impersonnelle. Ce n'est pas ainsi que le ciel est. Ce qu'est le ciel, c'est rentrer à la maison. Rentrer dans une maison où il y a une chambre avec ton nom dessus. Une chambre préparée spécifiquement pour toi. Où Jésus lui-même nous conduit dans cette chambre et te montre en quoi c'est un lieu préparé spécialement pour toi. Voilà ce qu'est le ciel. C'est ainsi que Jésus l'a décrit.
Parfois, l'idée que les gens se font d'entrer au ciel est davantage influencée par les films ou les livres que par la Bible.
Ainsi, certaines personnes imaginent l'entrée au ciel comme essayer d'entrer dans une boîte de nuit, comme sur cette image. Ils s'imaginent une longue file d'attente et tout le monde est nerveux, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être autorisés à entrer. Pendant ce temps, ces VIP passent devant tout le monde et entrent directement.
Enfin, vous arrivez devant le portier. Il ne sourit pas. Il ne vous salue pas. Il vous demande seulement votre nom et commence à passer sa liste en revue. Et vous ne savez pas si vous allez pouvoir entrer ou non. C'est ainsi que certaines personnes imaginent l'entrée au ciel, et peut-être même que certains chrétiens le pensent aussi.
il y a toujours une file de personnes qui attendent. Ce n'est pas personnel, et ce n'est certainement pas chaleureux ni accueillant.
Mais ce n'est pas l'image que nous voyons ici dans Jean 14. Jésus ne parle pas d'une longue file d'attente. Jésus ne dit pas que ses croyants vont être nerveux. Jésus ne dit pas que ses disciples seront anxieux en se demandant
« Je me demande si je vais pouvoir entrer ».
Non, ce n'est pas ça du tout l'image du ciel. C'est Jésus qui te prend personnellement pour t'emmener dans sa maison,
qui t'emmène personnellement à la place qu'il a préparée pour toi,
afin que toi et moi puissions être avec lui pour toujours.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de réception où tu dois d'abord te rendre.
Ce n'est pas un hôtel froid.
C'est une maison chaleureuse, remplie d'amour et de relations profondes.
Il n'y a aucune crainte dans cette maison, aucune angoisse.
C'est chaleureux et c'est personnel.
Les disciples étaient découragés,
mais Jésus leur a rappelé que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a,
mais que nous avons une espérance future,
bien meilleure que tout ce que nous pouvions imaginer.
Jésus leur a dit qu'il tenait profondément à eux,
suffisamment pour leur préparer une place dans la maison de son Père.
Jésus leur a rappelé le ciel pour les encourager,
et je pense que le ciel est aussi censé être un encouragement pour nous,
alors que nous faisons face aux incertitudes de la vie.
Ce monde peut nous frapper en plein visage.
Ce monde peut te briser le cœur.
La souffrance, la douleur,
bien souvent, cela peut sembler presque insupportable.
Mais Jésus nous dit, « Croyez-moi, faites-moi confiance,
je ne vous ai pas oublié,
je reviens vous chercher.
Je viens vous ramener à la maison,
j'ai une place spéciale rien que pour vous,
et nous pourrons être ensemble pour toujours.
La réservation est faite,
il y a une chambre à votre nom,
elle ne sera pas annulée.
Tu ne sais peut-être pas où tu vas vivre le mois prochain.
Tu ne sais peut-être pas où tu vas vivre l'année prochaine,
mais tu peux savoir où tu vas vivre pour l'éternité.
On dit que la maison, c'est là où est le cœur,
et tu dois toujours te rappeler que le ciel est ta vraie maison,
parce que c'est là que Jésus est.
Le ciel est le ciel parce que c'est là que Dieu habite,
et il a un endroit préparé spécialement pour toi.
N'est-ce pas incroyable?
Mais les disciples ont encore des questions.
5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pouvons-nous connaître le chemin? »
Thomas pose deux questions, « Où et comment? »
Jésus a dit au verset 4 qu'ils savent où il va.
Mais Thomas dit, « Je ne sais pas où tu vas.
Comment puis-je savoir? »
Comme nous l'avons vu la semaine dernière,
bien souvent Jésus parle de façon figurée,
mais les disciples le comprennent littéralement.
Nous avons le luxe du temps.
Nous pouvons comprendre pleinement ce que Jésus voulait dire parce que nous sommes de ce côté de sa mort et de sa résurrection,
mais les disciples sont encore limités dans leur compréhension de tout cela.
Ils comprendront mieux avec le temps.
Mais Jésus leur répond quand même,
et au verset 6,
Jésus dit, « L'une des choses les plus provocantes qu'il ait jamais dites sur terre. »
6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. »
7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Thomas demanda, « Comment pouvons-nous connaître le chemin ?»
Jésus répond, « Je suis le chemin.
Jésus est le chemin vers le ciel.
Jésus est le chemin vers Dieu.
Nul ne vient à Dieu le Père si ce n'est par lui. »
Peut-être avez-vous entendu parler du système de croyance appelé universalisme.
Fondamentalement, il s'agit de l'idée que tout le monde ira au ciel,
peu importe ce en quoi ou en qui il croit.
c'est l'idée véhiculée par l'expression « tous les chemins mènent au sommet de la montagne ».
Cela signifie que finalement, peu importe ce que l'on croit, tout ira bien pour tout le monde.
Bien que cela puisse sembler agréable, vous ne trouverez pas cette idée dans la Bible.
Parce que Dieu se soucie de qui vous adorez. Cela a de l'importance pour Dieu.
Dans les 10 commandements, Dieu a dit que vous ne devrez avoir aucun autre Dieu devant lui.
Et Jésus dit qu'il est le chemin vers le ciel.
Jésus est le chemin vers Dieu.
Il n'est pas un chemin, comme s'il y en avait d'autres, mais il est le chemin.
Le salut ne se trouve en aucun autre nom.
Il existe de nombreuses religions dans le monde.
Il y a beaucoup de systèmes de croyances.
Il y a de nombreuses visions du monde.
Mais ce n'est pas parce qu'il existe de nombreuses religions qu'elles sont toutes identiques,
et cela ne veut pas dire que l'une d'elles n'est pas vraie.
Quelqu'un pourrait entendre les paroles de Jésus et dire « c'est intolérant ». Comment Jésus peut-il prétendre être le seul chemin vers le ciel ?
Mais ce n'est pas intolérant si c'est vrai.
Et en réalité, c'est par amour que Jésus ne cache pas le chemin vers Dieu,
mais qu'il dit ouvertement aux gens comment aller vers Dieu.
Cette semaine, la saison de football de notre fils a recommencé, ce qui signifie qu'il a entraînement 3 soirs par semaine.
C'est de l'autre côté de la ville. Donc c'est plus pratique s'il prend le tramway pour aller à l'entraînement.
Et il est maintenant assez grand pour que nous pensions qu'il en est capable.
Maintenant, il y a beaucoup de trams qui passent à cet arrêt.
Penses-tu que je lui ai dit « ça n'a pas importance quel tram tu prends ».
Tous les trams t'emmèneront à l'entraînement de football.
Bien sûr que non.
Le premier jour, j'ai pris le tram avec lui.
Je lui ai tout expliqué et je lui ai montré quoi faire.
Le deuxième jour, ma femme l'a laissé diriger pendant qu'elle le suivait.
Et vendredi, il y est allé seul.
Et depuis cet arrêt de tram, il n'y a qu'un seul tram qui l'emmènera à son entraînement de football.
Le tram numéro 5.
Donc toute la semaine, je lui ai demandé « Quel tram te mène à l'entraînement ? Quel tram te mène à l'entraînement ? Quel tram que mène à l'entraînement ?»
Il n'y a qu'une seule réponse, le numéro 5.
Il y a beaucoup de trams différents qui passent à cet arrêt.
Mais un seul tram l'emmènera là où il veut aller.
Les autres trams l'emmèneraient dans beaucoup d'autres directions.
Jésus n'est pas venu en disant qu'il est un chemin, mais qu'il est le seul chemin vers Dieu.
C'est par lui.
Et non seulement il est le chemin, mais il est la vérité.
Jésus n'est pas seulement pour la vérité.
Jésus est la vérité.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde plein de confusion, un monde où les gens ne savent pas à qui faire confiance.
Les gens ont moins confiance dans les institutions.
Les gens ont moins confiance dans les médias.
Les gens ont moins confiance dans les personnes en position de pouvoir.
On dit que nous vivons à une époque post-vérité.
Et ce que cela signifie, c'est que pour certaines personnes aujourd'hui, les faits n'ont même plus d'importance.
Autrefois, 2 personnes pouvaient débattre d'un sujet, mais au final, ce sont les faits qui l'emportaient.
Dans notre monde actuel, certaines personnes vont simplement ignorer les faits.
Elles vont ignorer la vérité.
Mais Jésus vient et ne dit pas seulement que vous connaîtrez la vérité à son sujet et que cette vérité vous rendra libre.
Jésus dit qu'il est la vérité.
Non seulement vous pouvez avoir confiance en lui,
mais il est la vérité incarnée.
Vous pouvez construire votre vie sur lui.
Jésus a dit un jour,
« Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. »
La pluie est tombée. Les torrents sont venus.
Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison.
Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le roc.
Dans un monde plein de confusion, Jésus dit, « Vous pouvez avoir confiance en moi. Vous pouvez bâtir votre vie sur moi. Si vous m'écoutez et m'obéissez, votre fondation tiendra lorsque les tempêtes de la vie viendront.
La pluie tombera, le vent soufflera, mais votre maison ne s'effondrera pas, parce qu'elle aura été bâtie sur Jésus. »
Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Jean 3:16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
La Bible dit que le péché a apporté la mort et la séparation d'avec Dieu.
Jésus est venu non seulement pour mourir pour vos péchés, mais pour vous donner la vie abondante que lui seul peut offrir.
Nous étions morts dans nos offenses, mais Dieu nous a rendus vivants en Christ.
Habituellement, lorsque nous lisons le verset 6, nous parlons de l'exclusivité de Jésus-Christ,
pour toutes les raisons que je viens de mentionner.
Et c'est vrai.
Mais en réfléchissant à ce verset, cette semaine, je ne pense pas qu'il s'agisse seulement d'un verset pour des discussions et des débats apologétiques.
Je pense qu'il est aussi destiné à être un verset d'encouragement pour nous.
Peut-être que parfois, lorsque vous allez quelque part et que vous avez l'impression de vous être perdu,
vous sortez votre téléphone pour vérifier l'itinéraire.
Vous ouvrez Google Maps pour voir où vous êtes par rapport à l'endroit où vous voulez aller.
Et c'est toujours un sentiment formidable de voir ce point bleu avancer sur la ligne bleue vers votre destination.
C'est une grande joie de savoir que vous n'êtes pas perdu, mais que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre objectif.
Cela encourage de savoir que vous allez dans la bonne direction.
Permettez-moi de vous encourager ce matin, si vous avez placé votre espoir et votre confiance en Jésus-Christ,
vous êtes sur le bon chemin.
Il est le chemin.
Il est le bon berger.
Vous ne manquez de rien.
Il a un but et un plan pour votre vie.
Vous pouvez avoir l'impression que votre point bleu se déplace partout sur la carte.
Mais si Jésus est votre Seigneur, alors vous pouvez avoir la certitude qu'il vous guide dans la bonne direction.
Vous pouvez avoir confiance que peu importe où le coin bleu de votre vie se trouve sur la carte,
vous êtes sur la bonne voie en Jésus-Christ.
Il est la vie, il est la vérité et il est le chemin.
Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. »
Philippe ne pose pas de questions ici, mais sa remarque montre qu'il ne comprend pas encore tout à fait.
Jésus vient d'expliquer qu'il est le chemin vers Dieu le Père,
mais Philippe semble passer outre ce que Jésus a dit et s'exclame,
« Jésus, montre-nous Dieu le Père, et cela suffit. »
Peut-être que Philippe voulait que Jésus leur montre une manifestation physique de Dieu,
comme le buisson ardent pour Moïse,
ou un murmure comme pour Élie dans la caverne.
S'ils pouvaient voir un signe, cela leur suffirait.
Ce serait assez pour eux.
9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe.
Celui qui m'a vu, a vu le Père.
Comment peux-tu dire, montre-nous le Père?
10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi fait ses œuvres.
Jésus dit à Philippe, nous avons été ensemble pendant 3 ans,
mais tu ne comprends toujours pas.
Jésus dit que tu n'as pas besoin d'un buisson ardent ou d'un murmure dans la caverne,
parce que tu m'as vu. Tu as passé du temps avec moi. Tu as vu les œuvres puissantes que j'ai accomplies. Tu as vu Dieu le Père agir à travers moi. » Autrement dit, Jésus dit, « Tu m'as vu, donc tu as vu Dieu à l'œuvre. » Dieu le Père demeure en Jésus, et Jésus demeure en lui. Jésus est l'image du Dieu invisible. Toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que ce Dieu existe en trois personnes. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un en essence et un en substance, mais ils sont distincts les uns des autres. Je pense que ces versets expriment bien ces deux réalités. Jésus n'est pas Dieu le Père, mais Jésus est Dieu. Et tu dois faire quelque chose de cette vérité.
L'auteur C.S. Lewis a dit un jour, de façon célèbre, qu'on ne peut pas dire que Jésus était un bon enseignant, mais qu'il n'était pas Dieu fait chair. On ne peut pas dire que Jésus était un gentil enseignant qui a dit des choses sages, tout en affirmant qu'il n'était pas Dieu. Pourquoi ? Parce que dans des versets comme celui-ci, Jésus affirme être Dieu. Lewis a dit qu'à cause de cela, il faut décider ce que l'on croit à propos de Jésus, soit il était un menteur, soit un fou, soit le Seigneur, soit il a menti en disant qu'il est Dieu, soit Jésus était fou et dément lorsqu'il a dit ces choses, soit Jésus est réellement Seigneur. Il est celui qu'il a dit qu'il était. Ainsi, quand vous lisez ces versets de Jean 14, dans quelle catégorie placez-vous Jésus ? Est-il un menteur ? Est-il fou ? Ou est-il Seigneur ? Qui dites-vous qu'il est ? On ne peut pas rester neutre face à Jésus. Qu'est-ce que vous croyez ?
11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres mêmes. 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Jésus dit, croyez en ce que je dis. Je demeure dans le Père et il demeure en moi. Mais si vous ne pouvez pas comprendre cela, réfléchissez à ce que j'ai fait. Croyez en ce que vous m'avez vu faire. Jésus dit, et probablement les autres disciples avaient du mal à comprendre tout cela. Jésus le voit et dit, d'accord, si vous ne pouvez pas encore comprendre cela, pensez aux œuvres que vous m'avez vu accomplir. Pensez au moment où j'ai nourri les 5000 personnes et les 4000 personnes. Pensez au moment où j'ai ressuscité Lazare d'entre les morts. Pensez au moment où j'ai changé l'eau en vin. Mais ensuite, Jésus va encore plus loin au verset 12 en disant que ceux qui croient en lui feront même de plus grandes choses après son départ. Maintenant, vous pourriez dire, comment peut-on surpasser les miracles de Jésus ? Comment peut-on faire mieux que marcher sur l'eau ? Comment peut-on dépasser la résurrection ? Je ne pense pas que Jésus parle de faire des choses plus spectaculaires que lui, comme s'il s'agissait d'une compétition. Je pense que Jésus dit que les disciples et l'Église accompliront des œuvres plus grandes, en termes d'ampleur et de portée. Jésus a principalement enseigné et œuvré dans la région d'Israël. Mais les disciples allaient porter son message aux païens, à travers l'Empire romain, et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus s'est surtout investi auprès des 12 disciples. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, 3000 personnes ont été ajoutées en un seul jour. Et nous continuons aujourd'hui à accomplir ces grandes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Nous les accomplissons par la puissance du Saint-Esprit, et nous les faisons au nom de Jésus. Dernier verset. 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14.
Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Il est utile de lire ces versets dans le contexte de Jean 14. Généralement, ces versets sont lus isolément. Quelqu'un va citer le verset 14 et dire « Tout ce que vous demandez au nom de Jésus, Dieu le fera ». C'est bien ce que Jésus a dit, mais il est important de se rappeler le contexte, à savoir que Jésus décrit à ses disciples l'autorité que Dieu lui a donnée. Hors contexte, on pourrait lire ce verset et penser « Dieu me donnera tout ce que je veux, tant que je dis au nom de Jésus », comme s'il s'agissait d'une formule magique. Dire ce que je veux plus le nom de Jésus, et qu'al Dieu me le donnera. Mais est-ce vraiment ce que Jésus dit ici? Nous donne-t-il une formule magique? Nous donne-t-il une sorte de superpuissance pour la prière? Si je prie, Seigneur, donne-moi une Lamborghini toute neuve, au nom de Jésus, cela veut-il dire que Dieu est obligé de me la donner? Ce n'est pas le but ici. Jésus ne nous donne pas des mots magiques pour renforcer nos prières. À cette époque, Jésus était un nom assez courant. Il n'y a donc rien de magique dans la combinaison de ces lettres. Peu importe combien de fois on la répète.
Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous nous souvenons de son caractère et de sa nature. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous nous rappelons de l'autorité que le Père lui a donnée. Lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est afin qu'il soit glorifié. En d'autres termes, quand nous prions au nom de Jésus, nous réfléchissons à tout ce que Jésus est et représente, sa bonté, sa grâce, sa sagesse et sa volonté. Personnellement, j'aime terminer mes prières en disant au nom de Jésus, Amen. Pourquoi? Est-ce parce que je dois ajouter au nom de Jésus pour que Dieu réponde à toutes mes prières?
Non, j'aime terminer mes prières au nom de Jésus comme une façon de dire, Dieu, tu as entendu toutes mes louanges et tu as entendu toutes mes requêtes. Je te les soumets humblement, sachant que tu sais ce qui est le mieux pour moi. Tu es un bon Père. Tu as envoyé ton Fils mourir pour moi, afin que je puisse vivre. Que ta volonté, et non la mienne, soit faite. Sois glorifié. Amen. Comme le dit un auteur, la prière confiante au nom de Jésus, selon sa volonté, sera exaucée. Et quand cette réponse viendra, Dieu en sera glorifié. Ainsi, dans ces versets, Jésus nous dit où nous allons. Nous avons un domicile au ciel qui nous attend. Dans ces versets, Jésus nous dit comment y arriver, en croyant et en ayant confiance en lui. Mais dans ces versets, Jésus ne répond pas à la question « Quand ? Quand y arriverons-nous ? Quand revient-il ? » Bien souvent, c'est notre plus grande question. Quand?
Ils ont mené des études qui montrent que les gens attendent plus patiemment s'ils savent combien de temps ils devront attendre. Ainsi, si un train a du retard, mais que les gens sont informés qu'il arrivera dans 30 minutes, ils sont plus enclins à attendre patiemment. Ils peuvent attendre parce qu'ils savent combien de temps durera l'attente. Lorsque les gens ne savent pas combien de temps l'attente va durer, c'est alors qu'ils deviennent nerveux et impatients.
Je pense que c'est pour cela que depuis des siècles, les chrétiens spéculent et s'interrogent sur le moment exact du retour de Jésus. Les livres sur la fin des temps se vendront toujours très bien, parce que nous voulons avoir la réponse à la question « quand ?». Si nous pouvions simplement savoir exactement quand Jésus revient, alors nous pourrions être plus patients.
Si nous pouvions avoir une sorte de compte à rebours, alors nous pourrions nous calmer. Mais nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure.
Jésus ne nous a pas donné de détails précis. Il a simplement dit, « Voici, je viens bientôt. » Et nous voulons demander, « Combien de temps ? Dans un an ? Dans 10 ans ? Dans 1000 ans ? Dans 1 million d'années ?» Et Jésus répond, « Bientôt. »
« Sommes-nous arrivés ?»
Non. Mais aie confiance que tu es sur le bon chemin en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Sommes-nous arrivés? Non. Mais aie confiance que ta demeure au ciel t'attend. Il a préparé une place rien que pour toi. C'est réservé. C'est propre. Et le petit déjeuner doit être formidable. Sommes-nous arrivés? Non. Mais d'ici là, va et accomplis les œuvres plus grandes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Il y a, 7 semaines, des choses auxquelles Dieu t'a appelé. Il y a, 7 semaines, des conversations que Dieu t'a préparées à avoir. Sommes-nous arrivés? Non. Alors continue à prier au nom de Jésus-Christ. Demande, cherche, frappe, rends grâce. Confesse, adore. Sommes-nous arrivés? Non. Mais tu t'en approches. Tu es en chemin. Ce point bleu avance et il est sur la bonne voie.
Nous servons un Dieu qui est souverain. Nous avons un Sauveur à qui toute autorité a été donnée. Ne sois pas un passager qui veut toujours tout contrôler. Attache simplement ta ceinture, regarde par la fenêtre et profite du voyage. Car lorsque tu fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, il peut t'emmener dans des endroits que tu n'aurais jamais pu imaginer.